Bonjour et bienvenue au podcast slash balado Histoire de s'en jaser. Aujourd'hui, c'est Rose et Maïté qui on est avec vous. Mon Dieu, le français, ça me quitte aujourd'hui. Et on est présentement avec Félix Gélina. Salut Félix.
Salutations.
Félix, si je me trompe pas, si je suis bien préparée, tu viens nous parler des Augustines et tu viens nous parler de leurs connaissances et de comment leurs connaissances ont influencé le système de santé qu'on a actuellement au Québec.
Absolument. Tu t'en souviens bien.
Je t'ai fait tes devoirs, Rose.
Je suis tellement prête. OK, ben super. Félix, avant qu'on commence par parler des Augustines et tout ça, c'est un sujet qui est vraiment fascinant. Je voulais juste te demander, bon, pourquoi ton histoire? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui t'amène à étudier là-dedans?
Mais moi, ce qui m'a beaucoup attiré en histoire, c'est surtout l'Antiquité. C'est pour ça aujourd'hui que je vais vous parler d'histoire du Québec sur les Augustines.
C'est thématique.
Oui, absolument. C'est sensiblement la même période, j'ai l'impression.
Moi, je pense que j'ai entendu parler des Augustines en Percy Jackson.
Je pense, ouais. Mais maintenant que tu le soulignes, c'est vrai que dans le livre, ils viennent au Québec, ils rencontrent les Augustines. Ils se transportent dans le temps. Ils ouais. vont à une époque où les Augustines étaient vraiment présentes.
Et Frédéric Haldimand.
Ouais, tout à fait.
Il me semble qu'il y avait un document épigraphique à ce sujet aussi sur les Augustines, en Asie mineure, si je me souviens bien.
Oui, mais bien sûr.
C'est, ouais, puis, absolument.
C'est bien connu les relations des Augustines et les Grecs.
Oui.
Oui, mais pour continuer sur le sujet, peux-tu nous parler un peu de pourquoi tu as fait un travail sur les Augustines? Est-ce que c'est parce que tu étais curieux de savoir comment ça fonctionnait? Explique-nous ça.
Oui, donc, dans un séminaire portant sur l'histoire du Québec, il y a plein de choses qui m'intéressent sur l'histoire du Québec. Par contre, les Augustines, ça avait touché ma curiosité, étant donné que, je sais pas, j'avais une vision assez morne des Augustines. J'étais comme, bon.
Des Augustines.
Moi, je dis qu'on les appelle les Augustines jusqu'à la fin du podcast, s'il vous plaît.
J'avais une vision assez morne, j'étais comme, bon, c'est des religieuses, sans plus, mais en creusant un peu plus le sujet et au fil des cours, j'ai réalisé que les Augustines détenaient vraiment des capacités soignantes et des connaissances qui, au fil des siècles, ont su construire un système de santé qui est celui qu'on a aujourd'hui, ou du moins que celui qu'on a aujourd'hui qui a hérité des Augustines. Bref, c'est ce qui m'a principalement intéressé, étant donné que ça a un peu bouleversé la vision que j'avais de ces femmes-là.
Ben, si t'as cette vision-là, c'est que t'as pas écouté Rock'n'None.
C'est à mettre dans ma liste de films que je vais écouter, je pense que...
T'as pas écouté ça?
Non, j'ai pas...
Excellent! Whoopi Goldberg!
Hey, c'est excellent, là! Et... Moi, ça me fait tomber en amour avec le chant de chorale.
Rock'n'None!
Excellent film!
Il y en a même un 2, puis ça se peut qu'il y a un 3. Il y a une rumeur d'un 3e. Donc, tout le monde qui écoute...
Ouais. Puis...
On va vous mettre la musique de Rock'n'None à la fin du podcast.
Exactement. On va vous le mettre dans les annexes, qu'on dit tout le temps qu'on met nombreuses annexes dans les podcasts.
Voilà. C'est... Ouais, non, je suis quand même déçu. T'sais, j'ai un cours de cinéma, je me demande pourquoi on le voit pas dans le cours en ce moment.
C'est un classique.
Pourtant.
Ça devrait être oscarisé. C'est ça le terme? Oscarisé? Pour mettre un Oscar?
Ah, Oscar, oui. Hey, je savais pas que tu en allais avec ça.
Mais revenons encore une deuxième fois au sujet.
Oui, donc oui, les Augustines, puis leur influence sur la vie quotidienne, finalement, sur le système de santé qu'on a en ce moment. Est-ce que ça a été déjà traité par d'autres historiens avant toi, ou d'autres historiennes, devrais-je dire?
Oui, ça a été traité par quelques historiens et historiennes, mais c'est un sujet encore assez peu documenté. Dans l'historien ayant fait le plus de travaux sur le sujet est François Rousseau, qui a dédié deux tomes assez massifs sur l'histoire des Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec, qui sont assez complets, qui le livre débute de l'arrivée des Augustines en Nouvelle-France et se termine jusqu'à dans les années 1960 où les Augustines perdent leur leur place au sein des hôpitaux au Québec. Donc c'est assez exhaustif. Mais par contre, c'est pas mal le seul historien qui s'est autant consacré aux Augustines. Et sinon, il y a quelques cas par-ci par-là, dont Normand Perron qui consacré aux Augustines de l'Hôtel-Dieu de Chicoutimi, Micheline Dallaire qui s'est intéressée à l'Hôpital Général de Québec et de Montréal, je me souviens plus par cœur. Sinon, il y a Marie-Claude Tifot aussi qui s'est intéressée un peu indirectement aux Augustines. Mais généralement, dans l'historiographie de l'histoire de la santé, c'est des personnages assez secondaires dans ce qui se trouve dans la documentation. Donc, on va parler de l'histoire de la santé, l'histoire de la médicalisation, des traitements, on va parler de l'histoire de la pharmacie. Les seuls spécialistes qui vont être, dans certains cas, qui vont être mentionnés, c'est les médecins ou les médecins en général. Donc, c'est quand même un sujet à développer, étant donné que les Augustines ont une place de premier choix dans l'histoire de la santé, et donc de remettre les Augustines à ce premier plan. Donc, c'est donc un peu ce que j'ai essayé de faire avec mon travail.
Puis moi, j'ai une question pour toi. En fait, c'est ça, tu as dit, dès l'arrivée en Nouvelle-France des Augustines, mm-hmm. est-ce que leur but, c'était de prodiguer des soins?
Je dirais que c'était pas initialement ce que les Augustines avaient en tête en arrivant en Nouvelle-France. Donc, elles sont arrivées en 1639 et le but initial était d'évangéliser des peuples autochtones. Donc, dans une perspective de colonisation, comme on le sait en Nouvelle-France. Mais dès leur arrivée, elles ont constaté un besoin criant de soins, étant donné les guerres incessantes et l'atmosphère assez précaire, je dirais, d'une colonie naissante. Ce qui fait en sorte que très, très rapidement, elles ont pris en charge les soins de la colonie. Donc, c'était pas le but initial de leur arrivée, mais au moins, cette congrégation existait déjà en France, et donc, elles arrivaient avec un bagage, un certain bagage de connaissances dans la colonie, ce qui leur a permis d'offrir ce service-là à la colonie.
Donc, finalement, elles palliaient vraiment l'instabilité de la colonie en proposant des soins de différents types, là, finalement.
Absolument.
Puis, juste pour mettre en contexte aussi, on est avant la Grande Paix, donc on est vraiment dans une colonie qui se fait attaquer fréquemment. Mm-hmm. C'est une instabilité sociale.
Quand tu dis la Grande Paix, juste pour être précis, c'est la Grande Paix de Montréal qui met fin à la guerre entre les Français et les Iroquois, c'est ça?
Merci Rose de tout le temps clarifier mes propos. Mais oui, exactement. Donc, j'imagine même pas la job qu'il y avait à faire, ça devait être assez...
Il y avait beaucoup de travail. Initialement, je crois qu'il y avait un établissement dans le coin de Cap-Rouge, des Augustines, où Européens et Autochtones allaient se faire soigner par les Augustines. C'était déjà reconnu. Leur service était déjà reconnu. Mais c'était une atmosphère très, 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 très précaire. Je prends, par exemple, on parle d'instabilité et de débordement. Il y a aussi annuellement l'arrivée des navires européens qui parfois étaient chargés de maladies contagieuses, etc. Donc, c'est des débordements annuels. Et si on peut parler en termes de saison, il y avait la saison haute.
On était en pleine éclosion.
Ouais, exactement. Il y avait la saison haute, l'été, c'est les guerres, les navires qui arrivent. Puis l'hiver, c'est un peu un moment de répit pour les Augustines. Mais oui, elles étaient surchargées par les besoins de la colonie.
Parlant de maladies, juste une petite aparté, si jamais vous entendez des... C'est moi, là, j'ai le rhume, donc...
Rose allait apporter le scorbut, comme dans la haute saison.
Je prépare les Augustines pour leur haute saison. Mais en fait, leur basse saison, qui arriverait en théorie, mais ouais. Je leur donne de la job, hein. C'est à cause de moi.
Ah, mais il y avait sûrement de la job.
Faut bien que ça travaille, ce monde-là.
Ouais,
là.
C'est ça.
Mais en fait, là, c'est ça. Donc, ils prodiguaient des soins à tout le monde. Mais là, on parle pas de médecine comme on la connaît aujourd'hui. Non. C'était quoi les types de traitements qu'ils faisaient? Tu sais, est-ce que t'arrivais là, comme, mettons, au traitement, tu sais, salle de tri à l'urgence, puis c'était comme, OK, j'ai ça. Tu sais, comment ça fonctionnait? T'allais voir les Augustines, tu cognais à part?
Non, ben, c'est, Généralement, c'est lorsque lorsqu'une personne avait besoin d'être soignée, c'était la famille qui prenait la charge de la personne. Lorsqu'on allait voir les Augustines, c'était lorsque les besoins de la personne étaient supérieurs à ce que la famille pouvait prodiguer en termes de soins. Donc, les maladies ou les blessures graves, c'était ce dont les Augustines s'occupaient. Encore là, c'est des soins, ça s'est développé au fil du temps, la spécialisation des soins. Je vais en parler tout à l'heure, je crois. Mais c'est... Donc, oui, je sais plus où je vais en aller avec ça.
Mais dans le fond, finalement, c'était les soins qui débordaient de... Excuse-moi, Maïté, je t'ai coupé la parole.
Non, mais j'ai reculé fort.
OK.
Je pense que j'étais juste...
excitée.
Mais c'est parce que je mange mes pois chiches en même temps. Faut que je le dise, je pense. Puis j'étais juste trop énervée. Je m'excuse. Le bruit de la chaise. Je m'en excuse. Toi, tu tousses.
Ouais.
Moi, je...
On s'excuse toutes une fois.
Ouais. C'est...
Ouais.
Je suis désolée.
Moi aussi, je m'excuse.
Mais... Sincèrement.
Rose, excuse-toi aussi pour ton scorbut.
Ben, je m'excuse, mais là, je vais continuer avec l'alimentation du balado. Hein? OK? Fait que dans le fond, ce que tu nous expliques, là, c'est que les soins, surtout pendant la Nouvelle-France, mais évidemment, ça a un peu changé à travers le temps, mais c'est demeuré quand même quelque chose de vrai pour le Canada français qui est devenu Québec, c'est que les moments où on allait voir les Augustines, c'est que ça débordait des soins qu'on pouvait donner au domicile, finalement.
Absolument.
Puis, les Augustines, est-ce qu'elles offraient juste des soins corporels ou est-ce que ça allait dans d'autres... Parce que je pense un peu à peut-être la santé mentale, des choses comme ça, ben, est-ce que ça débordait de ce côté-là? Est-ce que, en tout cas...
C'était majoritairement... je dirais que l'essentiel de leur travail comportait une dimension spirituelle. Donc... C'est sûr, on parle de soins, mais c'est pas une conception contemporaine des soins. Il y a pas de bloc opératoire, il y a pas de salle d'urgence. Donc les personnes arrivaient là et ils étaient pris en charge, mais la dimension spirituelle régnait. Donc les patients étaient accompagnés pendant leurs soins, donc par les Augustines, toujours dans une vision religieuse. Les Augustines, il y avait une conception de la souffrance qui était liée avec le Christ, qui faisait en sorte que les Augustines conceptualisaient le corps du Christ dans chaque malade et donc qu'elles le soignaient. Et ce qui fait en sorte que la dimension spirituelle est majoritaire. Encore une fois, les soins, c'est surtout de ne pas nuire, dans le fond, c'est d'amener le patient à mourir de façon chrétienne. C'est d'alléger les souffrances des gens. Et dans cette dimension spirituelle, le principal était de poser des questions sur la vie et sur la mort et de susciter les réflexions chez la personne malade qui pouvait avoir un effet rédempteur lorsque une personne était en phase palliative, par exemple. C'est ce qui faisait en sorte que ça c'était rédempteur et ça allégeait le poids de la maladie de la personne. Et en même temps, dans certains cas, la dimension spirituelle servait à convaincre des non-croyants ou par exemple des protestants qui allaient se faire soigner par les Augustines à devenir catholiques. C'est aussi un petit moment de... convaincre à la dernière minute.
Ouais, c'est ça. Hey, il n'est jamais trop tard. Hein,
Hey, tu sais, dernier argument, juste au cas.
Juste pour que tu saches.
Ouais.
Le paradis, c'est vraiment cool. J'ai entendu dire qu'elle est belle. Personne, genre Dieu.
Genre oh. Frédéric Aldouin, oh, il était protestant. Genre
Jésus.
J'ai rien dit. Excusez-moi. Mais là, pour les Augustines, ils étaient situés où à Québec? Est-ce qu'ils ont commencé dans quel établissement? Puis, tu sais, Chic, qui est un peu partout dans Québec après, tu peux-tu plus clarifier ça?
Donc, oui, initialement, elles étaient établies à Cap-Rouge. Très rapidement, elles ont changé d'établissement pour le site de l'Hôtel-Dieu de Québec actuel.
Donc, OK.
Dans le Vieux-Québec.
Oui, dans le Vieux-Québec.
À côté de l'ancienne armée du Salut, c'est ça?
Encore là.
Oui, il est encore là.
Mais la présente armée du Salut et le HTM.
C'est... Oui, c'est vrai, le Ashton sur la même rue.
Au moment où on enregistre le podcast, le Ashton est encore là.
C'est pas une certitude, là, les commerces qui ont sur cette rue-là.
Arrête, il y a comme le meilleur chiche de Québec, là.
C'est vrai, Carthage Express. Là, on va faire...
Oui, Carthage Express, s'il vous plaît. Allez, là.
C'est un balado pro-Carthage Express.
Et les patates. En fait, là, du Carthage Express. Ils ont changé leur recette de sauce il n'y a pas longtemps, mais les patates restent excellentes.
Ça, j'ai le goût d'aller manger là, même Carthage Express. Mais à chaque fois que je passe devant, c'est fermé.
Ouais,
là, c'est...
ouais, mais ils sont deux.
C'est ça le problème de la grandeur et de l'excellence.
Allez, c'est pas l'heure de pointe. Mais l'Hôtel Dieu, OK. Oui. Il y avait d'autres établissements.
C'est... Il y avait d'autres établissements, donc plus tard. Autour des années 1700, là, l'Hôtel Dieu se sépare pour fonder l'hôpital général. Donc, ce qui est en Basse-Ville.
Au bout du boulevard Langelier, tout près de l'école technique.
Absolument. Qui est également une autre municipalité que Québec, le site du monastère.
Tout à fait.
Oui.
Tout à fait. J'avais voulu faire un travail sur... la Basse-Ville de Québec, les quartiers Saint-Roch-Saint-Sauveur, et on m'avait dit que tu n'étais pas dans les quartiers Saint-Roch-Saint-Sauveur.
Et depuis, Rose ouais. s'en souvient.
Depuis, je m'en souviens que c'est une municipalité à part, gérée par la Sœur Générale. Ouais.
Il y avait deux sites, les deux n'avaient pas les mêmes buts, les mêmes objectifs, ou les deux?
Non, il n'y avait pas les mêmes buts et objectifs, donc c'est un peu dans la spécialisation un peu des traitements, il y avait au fur et à mesure une surcharge de travail chez les Augustines, puis dans cette idée de spécialisation, ils ont fondé l'hôpital général pour s'occuper de problèmes différents de l'Hôtel Dieu. Donc, les sœurs de l'hôpital général soignaient les blessés majoritairement, ou les femmes enceintes qui avaient des complications d'accouchement, ou les personnes âgées, tandis que les sœurs de l'Hôtel Dieu de Québec soignaient les malades, principalement. Donc, on peut déjà observer par cette division, une spécialisation de traitement qui symbolise un peu une amélioration de la qualité des soins qui sont prodigués, puisque les sœurs vont continuellement œuvrer dans les mêmes cas. Donc, ça permet une spécialisation à ce niveau-là.
Puis j'imagine que, en fait, une chose que je trouve quand même intéressante, c'est que, au final, j'ai l'impression que les sœurs, elles s'adaptaient, en tout cas, à ce moment-là, au milieu dans lequel elles étaient installées. Par exemple, en Hauteville, bon, à ce moment-là, on voyait plus de personnes, justement, donc les malades, c'est les quartiers populaires qui sont comme dans Saint-Jean-Baptiste, actuellement. Voilà, c'est vraiment pas clair ce que j'essaie de dire, mais on s'adapte à la population qui habite autour de l'hôpital. Puis je sais aussi que, justement, plus tard, dans la construction des quartiers Saint-Roch et Saint-Sauveur, qui sont des quartiers ouvriers, ça c'est plutôt à l'époque industrielle, mais le fait que l'hôpital général s'occupe beaucoup de l'itinérance, des gens qui ont des problèmes de santé mentale, puis tout ça, ça montre justement que, dépendamment de t'es où dans la ville, les sœurs s'adaptent à la population qui est autour de l'hôpital.
Donc, absolument.
Je trouve ça notable. Ça me rappelle les CLSC aussi, qui s'adaptaient mieux à la population locale. En tout cas, sinon, on parlait des soins que les Augustines y prodiguent. C'est quoi le genre de connaissances qu'elles pouvaient avoir, les sœurs?
Autres que spirituelles.
Ouais. Oui, donc, ouais. Comme je l'ai dit, c'est une congrégation qui existait déjà avant la colonie. Donc, elles partent avec un certain bagage de connaissances qui va s'approfondir, je dirais, par l'exercice de leur fonction dans la colonie. Elles atteignent des connaissances en matière d'alimentation. Donc, elles savaient comment favoriser un rétablissement rapide par la nourriture qu'elles donnaient aux patients. Je donne un exemple. Elles priorisaient plutôt le bœuf comme viande par sa facilité de digestion, ce qui peut être crucial dans le soin d'une personne malade. Il y a aussi le fait que les repas étaient complets, qui étaient protéinés et équilibrés, ce qui est franchement rare dans une colonie, souvent en temps de guerre. Il y avait beaucoup de carences et de disettes, ce qui faisait en sorte que l'alimentation complète, bien protéinée, avec des aliments faciles de digestion, ça peut permettre un rétablissement assez rapide pour le patient. Ce qui est complètement l'opposé de l'alimentation domestique. D'autre part, l'expérience des sœurs qui étaient plus âgées servait comme méthode d'enseignement. Les sœurs plus âgées, justement, apprenaient aux sœurs plus jeunes que les cas dont elles ont fait face. Et c'était un apprentissage, je dirais, expérientiel et plus visuel. Dans certains cas, les sœurs, visuellement, pouvaient identifier certaines maladies ou certaines pathologies, je dirais, même si le concept de pathologie n'est pas créé à cette époque-là. Mais donc, en prenant connaissance de la maladie du patient visuellement ou des réactions de certaines maladies à certains produits ou médicaments ou remèdes. C'est donc un apprentissage qui est visuel, qui a permis de comprendre certains phénomènes médicaux, à proprement dit, et qui, dans le fond, j'ai le goût de dire, c'est comme un essai-erreur à grande échelle. Mais au fil du temps, ça se précise de plus en plus, et donc c'est de plus en plus efficace. Outre l'expérience des sœurs plus âgées, les Augustines avaient des connaissances sur les bandages, et aussi connaissaient certains principes d'infection, au sens où elles lavaient régulièrement leurs mains avant de prodiguer des soins aux patients, et lavaient régulièrement le drap et la literie des patients qui avaient certaines maladies contagieuses, et prenaient le soin de les isoler un peu plus pour pas que ça se transmette aux autres.
Intéressant.
Oui, c'est...
un bel ajout.
Quand même. Quand tu vois que c'est croûté, tu fais... Non,
ouais.
Peut-être c'est le temps de laver les draps.
Mais à part
ça, c'est... peut paraître rudimentaire, mais c'est
une bonne base.
C'est vital. Les principes d'infection, quand on le sait pas, ça peut très vite se transformer à tout le monde là, incluant les sœurs.
Incluant
donc...
les sœurs qui prodiguent les soins. Ouais. Mais c'est surtout un rappel pour nous, les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Ça fait trop longtemps que vous avez lavé vos draps, il faudrait maintenant les laver. C'est très important.
Non, il y a aussi les oreillers. T'as-tu vu ça? C'est comme rendu comme une trend sur TikTok de laver ses oreillers pour voir comment ton eau de bain devient brun. Moi, ça m'a traumatisée.
C'est complètement dégueulasse.
S'il vous plaît, tout le monde, lavez vos oreillers.
Tu sais, les cernes jaunes sur l'oreiller, là, c'est...
Ben, ça, t'imagines, tu fais ça tremper dans ton bain.
Wash. OK, on retourne ailleurs.
Moi, j'avais une question. parce qu'on a parlé des connaissances, mais il y avait aussi de l'herboristerie qui était pratiquée par les sœurs. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Moi, herboristerie, vous savez que ça me fait penser à Harry Potter, mais on va pas parler aujourd'hui de ça. Mais quand même, il y avait une connaissance. Il
fallait juste le mentionner.
Ben, c'est ça, fallait que je le plug aujourd'hui.
Non, mais tu sais, vous savez, J.K. Rowling s'est inspiré directement des notes documentaires des Augustines pour les noms des...
des potions.
des potions.
Ça, puis la gangrène de James Wolfe.
La gangrène.
Pas juste la gangrène.
Sa gangrène, là.
Je me laisse.
Ça, c'est ma petite dyslexie, là.
La gangrène à Wolf. Je verrais ça comme titre de mémoire de maîtrise, là.
Je m'excuse, ces arbres! On parlait d'herboristerie.
Oui.
Je l'ai bien dit. Ouf! Excusez-moi.
Qu'on parlait d'Harry Potter avant ça. Bref.
Moi, j'arrête de parler pour le podcast, je pense, c'est fini.
Non, c'est correct.
Non, c'est enrichissant.
Donc, les personnes qui nous écoutent, faites attention quand vous prononcez les mots. C'est important de bien dire les choses. Mais là, on parlait des connaissances en herboristerie des sœurs.
Absolument. Je pense qu'on
veut quand même Juste pour vous dire, on vient d'avoir un fou rire, mais je pense qu'on va en couper une bonne partie parce que vous n'êtes pas obligé d'être au courant de à quel point on cille quand on rit. Donc, on va en couper une partie, mais vous allez quand même pouvoir entendre Maïté qui débarque.
Oh, on peut le couper aussi, là. Non, non, mais Rose va pas le couper, même si je lui demande de le couper. Non. Donc, je m'excuse profondément.
Grand graine, c'est précieux.
Mais là, je vais revenir au sujet. Je vais ramener mon aparté, qui est mienne. Je m'en excuse profondément. Mais là, il y avait l'herboristerie. On dirait que ça fait 10 fois que je le dis, ce mot-là.
Oui, mais ça, tu veux vraiment en parler d'herboristerie.
Mais moi, je veux qu'on change de sujet. Je veux que ça passe et qu'on parle des autres connaissances. En fait, des sœurs qui pouvaient être... En fait, est-ce que c'est elle seule qui avait ce type de connaissances-là dans la colonie? Comment ça fonctionnait? J'aimerais ça en savoir plus.
C'est probablement pas les seuls qui détenaient ce type de connaissances dans la colonie, mais ils détenaient une solide réputation en matière de confection de remèdes. Les remèdes qui, donc, précisément l'apothicairesse de l'Hôtel Dieu qui était reconnue, j'ai le goût de dire à l'échelle du Québec, à l'échelle de la colonie.
De la vallée laurentienne.
De la vallée laurentienne.
Merci, monsieur Laberge.
De la BSL. Donc, la sœur apothicairesse de l'Hôtel Dieu de Québec détenait des connaissances précises et très appréciées dans la colonie. Les ingrédients pour les remèdes étaient cultivés sur le terrain de l'Hôtel Dieu et aussi importés, car pareil pour l'alimentation, les Augustines pouvaient faire importer directement des ingrédients d'Europe.
Quel genre d'ingrédients?
Pour l'alimentation, je suppose des aliments qu'on n'aurait pas en Nouvelle-France. J'ai pas d'exemple précis de l'assiette que constituaient les...
Quand même!
Non, mais tu sais, peut-être juste, je sais là, que comme les, tu sais, mettons du curry, là, par exemple, ouais. On ne pouvait pas en faire pousser, mais on connaissait déjà l'épice, puis il y a quand même des propriétés, ou tu sais, peut-être des trucs aussi comme des types de menthe, ou des choses comme ça, donc qu'on n'avait pas nécessairement ici, mais qui avaient des propriétés qu'on connaissait peut-être à l'époque.
Je sais que dans le livre « La croix et le scalpel » de François Rousseau, tome 1, il y a des documents d'archives les listes des Augustines qui étaient les listes d'ingrédients qu'elle demandait en Europe à faire importer.
Puis je pense que directement, en fait, au musée des Augustines qui est derrière l'Hôtel Dieu encore aujourd'hui, là, on aurait peut-être dû noter ça comme élément de repère près de l'Hôtel Dieu tout à l'heure, lui nommer le Carthage Express, mais c'est dans l'ordre des importances, j'imagine, je sais pas. Mais il y a le musée des Augustines, puis je sais que quand on fait la visite, il y a des listes qui sont à la vue, donc on peut voir un peu le genre de trucs que la pâtisserie pouvait commander et pouvait concocter aussi. Donc, il y a comme des flasques et tout ça. C'est vraiment cool. La bouffe est vraiment bonne au monastère des Augustines. En tout cas, je dis ça, j'ai rien.
Tout à fait. mais oui, donc, elle pouvait faire importer des ingrédients pour leur remède. Puis c'était réputé. Comme je disais, les sœurs de l'hôpital général venaient étudier auprès de l'apothicairesse de l'Hôtel Dieu de Québec. Et même dans les années 1700, j'ai plus la date exacte, il y a les Ursulines de Trois-Rivières qui ont envoyé des sœurs à Québec pour qu'elles apprennent la confection des remèdes. Donc c'était connu au sein des religieuses, mais aussi au sein de la population et même des médecins. Où j'ai un exemple d'un médecin dans les années 1900 qui commandait encore des remèdes aux Augustines malgré la médicalisation des traitements. Donc ce sont des remèdes qui sont assez efficaces pour les moyens qu'elles avaient et aussi qui fait preuve d'une grande érudition. C'est donc par exemple, elle pouvait confectionner des antiacides, des antitussifs, donc des médicaments pour la toux, des sédatifs pour alléger la douleur. Et c'était vraiment reconnu au sein de la communauté, les connaissances qu'elles avaient pour les remèdes.
Puis là, tu viens de parler justement du fait qu'au 19e siècle, il y a un médicament qui, même avec la médecine, entre guillemets, moderne, qui s'installe, commandait des médicaments, puis tout ça. Alors, si je comprends bien, c'est qu'en fait, le 19e siècle, avec l'industrialisation, puis tout ça, ben, ça se présente comme une période de vraiment, ben, de beaucoup de changements. Puis, je me demandais, est-ce que, ben, à quel point ou comment le travail des Augustines est affecté par toutes ces modifications-là qui se passent dans la société?
Oui, donc, il est vraiment affecté. Est-ce que j'avais dit 19e siècle ou les années 1900?
C'est ma faute.
C'était juste pour
T'avais
pour
dit les années 1900, je suis désolée.
Donc, 20e siècle.
Oui,
20e reprenons.
Siècle. Mais oui, au 19e siècle, il y a eu beaucoup de changements sociétaux qui sont venus bouleverser, j'ai le goût de dire, les pratiques des Augustines. Donc, la médicalisation des soins hospitaliers est venu changer la logique dans laquelle les soins étaient prodigués au sein de la société. Dès l'industrialisation, l'hôpital devient un support à la société industrielle plutôt qu'un support à la société communautaire. L'hôpital s'inscrit à présent dans une logique marchande plutôt que dans une logique d'échange spirituel. Et ce qui fait en sorte que ça bouleverse totalement la conception que les Augustines avaient établi des soins. Ces modifications amènent des modifications à une échelle sociétale, donc en termes de valeur. L'avancée des sciences et des recherches scientifiques sur la médecine a permis un nouveau regard sur la vie. Donc, alors qu'avant, il était question d'accompagner les patients dans la mort, maintenant, on ressent le devoir de préserver la vie, ce qui est vraiment un changement conceptuel dans l'approche de la médecine et des soins en général, ce qui fait en sorte que les Augustines sont franchement bouleversées. Je crois que je l'ai dit trois fois, mais c'est important de le souligner.
Mais ils sont bouleversés,
oui.
Faut le souligner. Mais là, après le bouleversement, comment les sœurs ont réagi?
Est-ce
qu'ils ont plié bagages puis sont juste partis?
Non. Ils se sont battus jusqu'à la fin. Et c'est comme...
Mon Dieu, résistance!
Mais je citerai Madame Joanne Daigle là-dessus, c'est pas de gaieté de cœur qu'elles ont quitté les hôpitaux et qu'elles ont fait place aux infirmières. Donc, comme je disais tout à l'heure, la dimension spirituelle des soins donnait un sens au travail que les Augustines faisaient dans la colonie. Donc maintenant, la dimension spirituelle étant un peu écartée, il y a comme un peu une recherche d'identité des Augustines à ce niveau-là. Durant les années 1900, les Augustines vont commencer pour pallier aux recherches sur les sciences médicales. Les Augustines vont commencer à suivre des cours universitaires sur les soins. Ils vont avoir des formations pour assister les médecins dans les soins, pour, par exemple, dans l'ordre de chirurgie, être celle qui donne les outils ou quoi que ce soit. Donc, elles se sont spécialisées au fur et à mesure que la médecine se spécialisait également.
Donc, finalement, elles deviennent un peu des infirmières de formation tout en demeurant sous le chapeau des Augustines. Donc,
oui.
Elles sont comme des sœurs infirmières pendant une période de temps.
Oui, c'est ce qui entre en contradiction avec la société qui se laïcise progressivement durant ces années-là et qui souhaite laïciser ses sphères de travail. Mais ce qui ne veut pas dire que, malgré le fait qu'elles aient été progressivement écartées des hôpitaux dans les années 1900, la société reconnaît, mais du moins le gouvernement reconnaît l'importance des Augustines et leur fait fonder des hôpitaux un peu partout à travers le Québec. Donc, entre 1900 et 1945, je crois qu'elles ont fondé quatre hôpitaux, notamment en Beauce et ailleurs. du simple fait qu'elle savait comment faire pour fonder des hôpitaux, malgré la volonté de laïciser la profession. En tant que société, on reconnaissait l'expérience des Augustines.
C'est comme elles adoptent une position assez paradoxale, finalement. Ouais. Donc, des personnes, on reconnaît leur savoir dans le monde hospitalier, dans le monde de la médicalisation, mais leur attachement à la religion catholique, leur attachement à des idéaux aussi qui étaient très anciens, ça fait en sorte que finalement, ils sont relégués à un second rôle, puis ils ne vont pas nécessairement prendre part à l'action. Donc, c'est quand même assez intéressant de savoir qu'on reconnaît leur savoir, mais pas l'étendue de leur connaissance non plus. Ouais. C'est comme fait à un peu... on a besoin de vous dans ce secteur-là, donc on reconnaît votre importance dans ce secteur-là, mais étant donné qu'on a maintenant des médecins, des infirmières, ben là, non, cet autre secteur...
On vous envoie en Beauce.
C'est beau, la Beauce!
Non, mais je dis pas que c'est pas beau, mais on dirait... Ça serait intéressant de voir si la marginalisation des Augustines se fait juste dans les centres développés et industriels au Québec. Parce que les centres qu'ils ont fondés, t'avais l'air de dire que c'était un peu plus en bordure des métropoles, en bordure, c'est vraiment des épicentres qui ont vécu l'industrialisation de façon comme intense.
Oui, absolument. Il y a eu des hôpitaux fondés aussi au Saguenay.
Tu vois, c'est ça. J'aime le Saguenay, tout le monde.
Non, mais c'est vrai que... nécessairement, dans ces nouveaux hôpitaux, elles gardèrent un rôle plus pondérant que, par exemple, à l'Hôtel Dieu, qui a été affilié, par exemple, à l'Université Laval, je me souviens plus des années, assez rapidement. Donc, elles ont été progressivement écartées des hôpitaux par la volonté de laïcisation et du fait qu'on considérait plus les Augustines comme étant autant utiles que, par exemple, une infirmière et un médecin. C'est avec tristesse qu'elles quittèrent, je crois. C'est autour des années 60, leur fonction. Et même les dernières Augustines, vers la fin des années 50, les Augustines participaient plus beaucoup aux soins, mais demeuraient les directrices des hôpitaux, jusqu'à temps qu'elles se fassent éjecter pour de bon.
Éjecté. Mais là, juste pour par souci de compréhension, finalement, c'est à partir du 19e siècle, donc des années 1800, qu'il commence à avoir un mouvement, justement, là, avec les Augustines, qui commence à être peut-être un peu plus relié à titre d'infirmière d'abord, puis après ça, de plus en plus tasser des soins de proximité, là, des soins avec le patient directement. Puis tout ça, ça prend floraison. Durant la Révolution tranquille, donc c'est vraiment à ce moment-là, justement, on parle de laïcisation, puis tout ça, c'est la Révolution tranquille qui met le dernier clou, finalement, puis qui dit, bon, là, les Augustines...
Oui, c'est dans les métropoles, du moins, c'était dans ces années-là qui était le dernier clou pour les Augustines avant qu'elles se fassent définitivement remplacer, ce qui était... totalement tragique pour elles, étant donné qu'elles ont fondé ces hôpitaux, qu'elles ont développé des savoirs et des modèles qui sont encore utilisés aujourd'hui. J'ai goût de dire la dimension spirituelle des soins que les Augustines pratiquaient comportait des valeurs humanistes et de respect du patient, comme je disais, l'incarnation du Christ dans le corps du malade. Donc c'est vraiment des modèles humanistes et de respect qui sont encore utilisés aujourd'hui dans l'enseignement des soins infirmiers et qui sont, j'ai le goût de dire, faussement attribués aux théories du nursing alors qu'on ne reconnaît pas la légitimité des savoirs que détenaient les Augustines.
Mais je pense que ça a comme à voir aussi avec le fait que dans la Révolution tranquille, on a fait un grand travail pour justement laïciser l'espace public, mais c'est que c'est un travail qui s'est finalement traduit beaucoup par l'idée que peu importe ce qui était bon ou ce qui était pas bon de la religion, ça prenait tout le bord. Puis ça demeure dans l'imaginaire québécois à plusieurs niveaux, que ce soit dans l'éducation, parce qu'il y a quand même plusieurs choses que les religions font dans l'éducation, D'ailleurs, les premières critiques des systèmes d'éducation au Québec, ça vient des religieux. Ça vient des religieux dans les années 20, les frères des écoles catholiques, entre autres. Ça vient aussi du frère Untel. Allez lire ça, c'est intéressant. Mais il y a beaucoup de choses que... Parce que c'était des gens qui prenaient beaucoup de place au Canada français, au Québec. Puis finalement, ben, avec la Révolution tranquille, on a un peu tout mis ça dans le même sac. Puis on a tout tiré ça par la fenêtre. Mais là, ça Absolument. Fait en sorte que maintenant, c'est comme le moment de peut-être revoir le rapport à la religion, parce que ça fait quand même plusieurs années, là, depuis la Révolution tranquille. On a eu le temps peut-être de laisser les idées baisser un peu, puis de peut-être revoir finalement, bon, tout le négatif, parce qu'il y en avait beaucoup, les peuples autochtones en témoignent, mais aussi de revoir les aspects peut-être positifs que ces groupes-là ont pu avoir sur les espaces, puis sur...
Absolument. C'est la Révolution tranquille a véritablement, si je puis dire, jeté le bébé avec l'eau du bain. C'est, les Augustines se sont fait complètement écarter et associer à d'autres critiques extrêmement négatives des communautés religieuses au Canada. Je dis pas qu'elles ont fait absolument rien de mal, mais je crois que c'est peut-être le moment de se mettre un peu de recul et de réévaluer l'importance qu'elles avaient par exemple dans mon travail, c'était pour le système hospitalier au Québec, parce que véritablement, si on se penche là-dessus, on réalise qu'en quelque sorte, notre système hospitalier a directement hérité des Augustines et des pratiques qu'elles avaient mis en place. C'est sans nier les côtés négatifs de la religion à ces époques-là, c'est de
bien nuancer. Oui, ben c'est ça, c'est important de nuancer, puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant de t'avoir ce soir pour ça. J'ai l'impression que, en fait, ton sujet que tu nous parles aujourd'hui a tellement de potentiel pour faire des études plus approfondies, tant à l'époque de la Nouvelle-France, quand on parlait de la médicalisation, tu sais, les sœurs. Moi, la question que je me posais, par exemple, c'est est-ce qu'ils ont resté dans le côté palliatif des soins à la fin de vie? Ça serait tellement intéressant d'approfondir. Puis, tu sais, des communautés religieuses comme ça ont des archives exceptionnelles habituellement. Là, je touche du bois, mais je pense que je dis pas n'importe quoi en disant ça.
Oui, et puis d'autant plus que pendant de nombreuses années, les archives étaient fermées, étant donné que l'archiviste était très sévère. L'archiviste en question a changé et les archives sont ouvertes pour étudier. Donc c'est le moment d'aller consulter les archives des Augustines de l'Hôtel Dieu de Québec. C'est une mine d'or pour approfondir les études dans ce domaine-là et justement qui mérite à être exploré.
Ben, penses-tu que ça pourrait être quelque chose que tu aimerais faire dans la suite des choses, peut-être?
Possiblement, ce serait vraiment intéressant.
Félix, il a called dibs sur les Augustines, il n'y a pas personne d'autre.
C'est pas parce qu'il voulait partager que vous devez le détrôner là-dedans. Là.
J'ai le goût de dire plus qu'il y a d'études là-dedans, mieux c'est le partage.
Ça finit sur tellement une bonne note. Vraiment. Le partage, l'information.
Mais je veux te remercier sincèrement d'être venu.
Mais merci à vous.
D'avoir embarqué dans parfois nos légères apartés. Légères, je
Ou grands apartés.
Ouais, les grandes apartés. Arrêtez, s'il vous
plaît. Je vais pas m'en sortir. Non. Je pense que c'est fini. OK. Ben, je m'excuse et j'espère avoir gardé un certain sérieux aux personnes qui nous écoutent ce soir.
Ils sont pas là pour le sérieux, les personnes qui nous écoutent ce soir, de toute façon.
Ils sont là pour ces moments crunchy.
Donc, je remercie James Wolfe, Frédéric Haldimann.
Et sa grande graine.
Et là-dessus, tout le monde, en fait, je vous souhaite une belle soirée, une belle matinée.
Peu importe. Un bon déplacement, un bon brunch, on sait pas.
Je vous souhaite un très bon 14h16.
Ouais, tout à fait. Bye la gang.
Salut.
Hail girls. Hail Mary. What's up? Well, Jerusalem's become a real drag. Everybody hates me.
Not that guy over there.
Who, him? They all say he's different. They say he's really weird.
We don't care what people say. To us, he's always there.
Really?
Torn apart from my God.